I'm turning now to the letter to the Hebrews, chapter 3 and verse 12.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, chapitre 3, verset 12. La lettre aux Hébreux, chapitre 3, verset 12. Frères, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule en se détournant du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour pendant qu'il est dit aujourd'hui, de peur que quelqu'un de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et notre sujet ce soir, c'est l'endurcissement de l'âme. Ces versets semblent très solennels et sérieux. Et j'aimerais les introduire comme étant des versets pleins de compassion. Frères, prenez garde. L'auteur écrit à des chrétiens, à des gens convertis en particulier. Et cependant, alors qu'il fait ceci, il est en souci par rapport à ceux qui, peut-être, ne seraient pas convertis. Ainsi, il amène cette exhortation. Frères, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Et ceci reflète la compassion du prédicateur dans ces versets. Et il est en souci pour ces gens. Et ainsi, il s'adresse à eux, comme il le fait de temps en temps dans cette lettre. Mais ce sont là ces paroles que j'aimerais considérer ce soir. C'est l'un de ces passages, et nous allons considérer simplement deux versets. Et cependant, presque chaque parole est tellement importante, parce que ces versets sont si profonds. Et cette construction de ces versets est tellement unique. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Mais j'aimerais commencer avec ce terme cœur, parce que c'est important de savoir ce que l'auteur veut dire par ce terme cœur. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, ce cœur mauvais? Sans aucun doute, l'auteur de la lettre aux Hébreux veut dire ici, d'une manière générale, par ce terme « cœur », toute l'âme. Il utilise dans différents contextes ce terme « cœur » dans toute cette épître. Et c'est très évident qu'il veut dire ici non seulement les sentiments, ces facultés émotionnelles, peut-être nous parlons du cœur dans ce sens-là, mais il veut également parler ici de tout l'âme, de l'équipement central de l'être humain, si vous voulez, ou d'une manière biblique, si vous voulez, non seulement votre cœur, mais également votre volonté, votre esprit également. Il pense à votre pensée, votre faculté de raisonner. Il pense à votre cœur, oui, vos affections, ce que vous aimez, ce que vous haïssez. Et il pense également à votre volonté, votre faculté de détermination qui décide et qui détermine les choses. Ces trois aspects de l'être humain, l'esprit, le cœur et la volonté. C'est là ce qui est à l'esprit dans ce terme cœur, et également la conscience. Clairement, en voyant toutes ces occurrences du terme cœur dans cet épître, c'est également la conscience qui est inclue ici, qui appartient à ces trois éléments également. Et il inclut également l'esprit, votre capacité à prier et avoir cette interaction avec Dieu. Ainsi, le cœur, c'est l'esprit, le cœur, la volonté, la conscience, l'esprit. L'esprit qui, pour la plupart des gens, est sans vie, et dort et est inactive. Mais ces cinq éléments, c'est là ce qu'il a à l'esprit quand il parle du cœur, ou de l'âme, si vous voulez. Et il parle ainsi de cette manière. Prenez garde, peut-être que vous n'êtes pas conscient du fait que vous avez en vous un cœur ou une âme, l'esprit, l'affection, la volonté, la conscience, cette faculté de prier, qui sont malades. Et peut-être que vous n'êtes pas conscient de cela, et il s'adresse à nous avec beaucoup de compassion, et il veut plaider avec nous, avec ceux qui écoutent et qui ne connaissent pas l'état de leur cœur, de leur âme. Ainsi, ce n'est pas quelque chose de sévère et de solennel, mais plein de compassion et de soucis pour ceux qui sont perdus. Frères, prenez garde Constamment, nous entendons parler de gens qui ne sont pas conscients de leur maladie, et alors des symptômes apparaissent et les choses deviennent de pire en pire. Ils vont chez le docteur, à l'hôpital, et c'est une maladie très grave et ils ne le savaient pas auparavant. Et peut-être le traitement est plus difficile et peut-être que c'est trop tard parce que cette maladie a été découverte trop tard. Ils ne savaient pas, ils n'étaient pas conscients qu'il y avait cette maladie qui était là. Et de même pour notre âme, nous pouvons passer toute notre vie et jamais penser à l'âme et jamais réaliser qu'il y a quelque chose qui est important là. Notre âme est malade. Quand je dis qu'elle est malade, je ne veux pas donner la mauvaise impression parce que le problème dans l'âme, c'est quelque chose de volontaire, c'est notre faute, nous sommes responsables pour cela. Nous ne pouvons pas comparer cela à une maladie physique pour laquelle nous ne sommes pas coupables. Ainsi, ce passage commence ainsi. Frères, prenez garde, faites attention. Il y a une maladie là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et vous n'êtes pas conscient, vous n'avez jamais pensé à ces choses, réfléchi à ces choses. Frères, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, c'est en vous, c'est dans votre constitution même, c'est là profondément dans votre être, dans votre esprit, la manière dont vous pensez, dont vous planifiez les choses. Vous avez là une maladie dans vos goûts, vous aimez les mauvaises choses et vous n'aimez pas les bonnes choses. Il y a quelque chose qui n'est pas bon là, qui est malade. Dans votre volonté, vous déterminez ces choses qui ne sont pas raisonnables et qui, spirituellement parlant, vous font du mal. Et votre conscience a été mise de côté, a été rendue silencieuse et elle ne parle plus. Oh, il y a certaines choses que vous faisiez dans le passé et vous vous sentiez coupable. Et maintenant, vous ignorez cela et vous pouvez faire ces mauvaises choses sans aucun problème. Votre conscience n'est plus active, elle est malade également. Et votre faculté spirituelle pour prier n'est pas exercée, n'est pas utilisée. À moins que vous ayez un besoin désespéré et un temps de panique, et ensuite vous oubliez ces choses quand tout va bien. Ces choses ne sont pas mises en pratique et exercées. C'est là une grande maladie. Ce passage dit « Prenez garde, faites attention, considérez ces choses. Votre avenir spirituel dépend de cela entièrement. » Frère, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, profondément en vous, un cœur mauvais. Est-ce que ce terme mauvais semble trop fort? Oh, comme nous avons considéré ceci dans un autre passage dans 1 Thessaloniciens ce matin, c'est là l'un des cas où ce terme mauvais est ce terme qui signifie en grec quelque chose de dangereux, qui vous fait du mal et qui vous détruit. Ces deux termes les plus utilisés pour le mal dans le Nouveau Testament, l'un signifie corrompu et impur et mauvais, et l'autre mauvais dans le sens qui vous fait du mal, qui vous détruit. Et c'est ce terme-là qui est utilisé dans ce passage également. Un cœur mauvais. Oui, bien sûr, ce cœur est corrompu moralement également, mais ce que l'auteur dit ici, c'est que c'est un cœur qui vous fait du mal, votre âme. Votre cœur est dans un tel état si nous n'avons jamais été convertis. C'est là dans notre constitution même que notre cœur nous fait du mal et nous tue, nous détruit. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais qui vous détruit. Ce cœur vous détruit, il est contre Dieu, il ne veut pas de Dieu. Et ceci nous détruit également nous. Parce que ceci nous amène sous le jugement de Dieu, sous la condamnation. Et nous sommes perdus éternellement à cause de cela, et nous n'aurons jamais l'aide de Dieu dans notre vie, et non pas non plus dans l'éternité. Ainsi, c'est un cœur mauvais qui nous détruit, qui est là contre nous comme une maladie, qui est là contre vous, et vous n'en êtes pas conscient, à moins que vos symptômes commencent à se manifester. Votre cœur, votre affection, votre faculté de déterminer les choses, votre volonté, votre conscience et votre faculté de prier, votre esprit, toutes ces choses vous font du mal parce que elles ne fonctionnent pas correctement, elles sont contre Dieu. C'est là ce qu'il dit, un cœur mauvais. Et voici le problème, l'incrédulité. Dieu n'est pas là, dit le cœur. Ou Dieu n'est pas bon, dit le cœur. Le cœur est contre Dieu. D'une manière étonnante et surprenante, le cœur n'est souvent pas contre un Dieu mort. Des idoles, par exemple. Le cœur humain n'est pas contre les idoles. Mais ici, l'auteur dit particulièrement un cœur mauvais et incrédule en se détournant du Dieu vivant. C'est le Dieu vivant que nous ne voulons pas. Parce que s'il est un Dieu vivant, il est un Dieu devant qui nous devrons rendre compte. Un jour, nous devrons rendre compte devant lui. S'il est un Dieu vivant, alors il nous connaît et il nous voit. Il nous observe. S'il est un Dieu vivant, alors il a des critères moraux, des opinions, des sentiments, et nous sommes contre lui, nous l'ignorons, nous transgressions ses lois. C'est un Dieu vivant qui nous offense. Et si quelqu'un nous montre une idole, quelque chose qui n'a pas de vie, un métal précieux ou des idoles, les gens n'ont aucun problème avec cela. Ces idoles ou les équivalents modernes de ces idoles, si le Dieu est mort, alors ceci ne nous dérange pas, mais notre cœur est contre le Dieu vivant, le Créateur qui est souverain, qui est Dieu au-dessus de toute chose, qui est le Dieu tout-puissant, qui connaît toute chose, qui voit toute chose et qui va tous nous amener un jour en jugement et à rendre compte. Et nous sommes contre cela parce que notre cœur est contre ces choses et notre âme ne veut pas être dirigée par Dieu. Notre âme veut sa liberté, son indépendance, loin de Dieu. Notre âme ne veut pas de critères moraux qui lui sont imposés. Frères, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais qui vous détruit, qui vous fait du mal, un cœur plein d'incrédulité en se détournant du Dieu vivant. Ce terme « se détournant » pourrait être traduit d'une manière plus forte en désertant le Dieu vivant. C'est là le sens dans le grec original. En se détournant du Dieu vivant, en se rebellant contre le seul vrai Dieu, le Dieu vivant, chaque parole dans ce raisonnement ici est importante. Et ensuite, au verset 13, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. » Oh, cette compassion de l'auteur pour les âmes perdues et ce souci profond pour leur salut. Est-ce que vous vous détournez du Dieu vivant? Vous n'avez pas de gratitude envers lui? C'est là le premier signe du fait que vous êtes détourné de lui, le premier symptôme de cette âme qui est malade. Nous ne le remercions jamais. Vous êtes là et chacun d'entre nous, nous avons été formés par Dieu. Nous sommes des êtres humains à des millions de kilomètres au-dessus des animaux, avec des capacités extraordinaires que nous ne voyons pas dans le règne animal, l'âme bien sûr, et la capacité suprême. Personne ne peut expliquer la vie consciente. Et tous ces scientifiques de tous les domaines, année après année, toujours à nouveau, ces gens qui essayent d'expliquer ces choses, et personne n'arrive à expliquer le fait de la vie consciente. Quelle est la physiologie? Comment est-ce que ceci fonctionne? Qu'est-ce que c'est? Personne ne le sait. Et ces explications sont si faibles, et vous avez la vie consciente, quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Vous pouvez réfléchir, penser, et vous êtes créatif, vous pouvez parler, ceci est unique à l'être humain. Il y a toutes sortes d'explications pour cela également, et toutes sortes de personnes ont essayé d'expliquer comment le langage est arrivé par un processus d'évolution, et cependant, plus on comprend par rapport au langage, plus c'est impossible d'expliquer le langage par l'évolution. Et les plus grands experts disent « Oh non, même un enfant peut parler et il est là prêt » dans son cerveau, pour le langage, pour la grammaire, pour ce langage, pour faire des phrases. C'est là la création de l'homme qui est unique. Est-ce que vous avez remercié Dieu pour vos facultés, pour vos capacités, pour votre vie consciente, pour vos dons, pour votre santé, votre force? Est-ce que vous le louez? Est-ce que vous le remerciez? Ou est-ce que vous vous comportez comme si vous vous êtes créé vous-même, ou que tout est arrivé par hasard avec un Big Bang, et tous ces trésors de la création, toutes ces choses merveilleuses que nous voyons, et la nature qui est si merveilleuse, tout ceci est simplement par hasard? Chers amis, c'est là l'âme qui est malade, qui pense qu'il n'y a pas de Dieu, et nous ne le remercions pas. S'il est là, il n'est pas un Dieu qui est bon, il n'est pas un Dieu qui me voit, qui me connaît, qui a des critères moraux. Et votre cœur est contre Dieu et ne veut pas accepter les 10 commandements et pense que la prédication et les commandements sont des commandements qui nous restreignent et nous ne voulons pas que ces choses nous dominent. Et ceci est très grave et ceci vous fait du mal à vous, non seulement votre destinée éternelle, mais également vous-même, parce que vous ne pouvez pas comprendre la vie, vous ne pouvez pas voir les choses telles qu'elles sont également, vous ne pouvez pas vous conduire d'une manière morale. Vous allez être malheureux dans votre vie, et bien sûr, vous n'aurez pas d'aide de la part de Dieu. Toutes ces choses sont réelles. Prenez garde, frère, voyez cette compassion-là dans cet appel. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, qui fait du mal, qui détruit, qui est incrédule, un cœur, une âme incrédule, en se détournant du Dieu vivant. Le Dieu vivant, qui est actif, qui est en vie, qui est actif dans la création, qui est actif dans la rédemption, qui est actif en se révélant lui-même depuis des siècles et de siècle en siècle dans la parole de Dieu, la Bible. Il nous parle de son être, de ses attributs, de sa création, de ses buts, de ses desseins. Le Dieu vivant qui a sauvé les âmes de génération en génération en amenant les gens à le connaître et qui a promis pendant des siècles la venue d'un sauveur et ce qu'il sera, où il sera né et ce qu'il fera, ce qu'il accomplira pour donner le salut à toutes ces âmes qui croit en lui, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Il est actif, il est venu dans la personne de Christ, la deuxième personne de la Trinité glorieuse. Il est allé à la croix du calvaire, il a souffert, il est mort pour porter la condamnation du péché à la place de tous ceux qui se repentent. Et il est ressuscité des morts, et depuis ce jour-là, il a rassemblé ses enfants dans l'Église du Nouveau Testament également. Mais il y a un cœur mauvais d'incrédulité en chacun d'entre nous. Prenez garde. Est-ce vrai? Est-ce que mon âme est malade et se détourne du Dieu vivant? Considérez ces paroles. Voyez cette compassion dans ces paroles. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. N'oubliez pas, c'est là la mission de l'Église, n'oubliez pas les âmes perdues. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, peut-être vous pourriez paraphraser ceci, pendant qu'on peut encore dire, c'est là le jour de grâce, c'est là ce que l'auteur veut dire ici, plaider avec les âmes, c'est là la mission de l'Église, tant que nous pouvons encore dire, c'est là le jour de grâce, avant le retour de Christ ou avant la fin de notre vie. Parce que quand la grâce est amenée à une fin, c'est là le jour du jugement où nous devrons rendre compte. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Parlez aux gens, persuadez-les, essayez de les gagner et ayez cet amour pour les âmes perdues. Et à la fin du verset 13, de peur que quelqu'un de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. En grec, ce terme s'endurcir, c'est être rendu obstiné dans votre attitude. Et c'est quelque chose de terrible pour l'âme que de devenir rigide, obstiné, intouchable, endurci, et de ne pas se repentir, de ne pas réaliser l'amour de Dieu, de ne pas être capable de réaliser ce que Christ a fait pour porter la condamnation du péché et pour nous amener à la repentance. de peur que quelqu'un de vous, il parle à chacun, chaque parole est importante dans ce verset, de peur que quelqu'un de vous, il ne parle pas simplement à une foule, j'espère que la plupart d'entre vous sont sauvés, mais il dit de peur que quelqu'un de vous, l'écrivain est également un prédicateur qui a l'habitude d'avoir cette compassion pour chaque individu. Peut-être qu'il parlait aux foules, mais il a ce souci, cet amour pour chacun, comme Christ de même, de peur que quelqu'un de vous ne s'endurcisse. C'est quelque chose de très triste que l'endurcissement de l'âme. Savez-vous, nous commençons par essayer de nous détourner de Dieu, de l'éviter. Mais ces choses deviennent de pire en pire si nous continuons, si nous ne tournons pas vers lui pour le chercher, pour le trouver. Nous commençons tout début à l'éviter. Nous ne disons pas « Oh, je suis contre la Bible, contre l'Église, contre Dieu, je ne suis pas contre ces choses, je les évite simplement. » Oui, mais ceci n'en reste pas là, parce que l'endurcissement est quelque chose qui progresse et avant peu de temps, vous niez ces choses et vous allez haïr ces choses et les sous-estimer parce que l'endurcissement va devenir de pire en pire. Vous n'allez pas simplement éviter ces choses, mais vous allez devenir pire. Nous commençons par penser que les critères moraux de Dieu sont oppressants. Je veux faire ce que je veux avoir les choses que je veux et je ne veux pas entendre parler de critères moraux et de moralité. Et ensuite, alors que le temps passe, nous haïssons les critères moraux de Dieu et nous disons « ces choses sont fausses, il n'y a aucune raison pour laquelle je ne peux pas faire l'opposé même de ces commandements » et toute la société même de nos jours explore ces choses qui étaient inacceptables il y a quelques années pour tout le monde, pour toute la société. Maintenant, ces choses sont acceptées. Nous commençons par être vagues par rapport à la religion, puis nous devenons pires et complètement ignorants. Je connais des gens, et c'est une tragédie, qui allaient à l'église dans le temps. Et ils étaient affectés par certaines choses, ils ont accepté certaines vérités et ont pris ces choses au sérieux. Mais ensuite, ils ont tourné leur dos à ces choses. Et vous les rencontrez 10 ans après, 20 ans après, ils semblent avoir oublié toutes ces choses. C'est comme si ces choses qu'ils comprenaient dans le passé sont complètement effacées de leur esprit. Et l'endurcissement fait ces choses. Nous perdons tout intérêt envers ces choses et toute connaissance parfois. Et ainsi nous ne voulons pas Dieu, mais nous devenons pires, nous nous endurcissons. Jusqu'au jour où, pour nous, Dieu est inconcevable et toute notion de Dieu, nous la haïssons. Certaines personnes ont dit « Oui, je sais ce que je devrais faire. Un jour, je chercherai le Seigneur. » Et après quelques années, ces choses ont changé. Et ils disent « Jamais, jamais, d'aucune manière. Nous nous endurcissons, nous changeons. » Et vous ne pouvez pas empêcher ces choses. Si vous rejetez ces choses, que vous restez loin, il y a cet endurcissement de votre âme qui se produit et vous devenez de pire en pire dans différents aspects. Et voyez cette tragédie, l'endurcissement par la séduction du péché. L'auteur personnifie le péché ici pour que nous puissions comprendre, comme si le péché était une personne qui fait ce complot contre nous et planifie de nous faire tomber par la séduction du péché, comme si le péché œuvre pour nous faire tomber et pour nous séduire. Et c'est là ce que le péché fait, la séduction du péché. Certaines personnes traduisent ceci par la tromperie du péché, mais cette séduction est une bonne traduction. Le péché vous dit différentes choses. Oh, c'est là un monde qui est bon. N'écoutez pas le message du christianisme qui dit que c'est un monde qui a chuté loin de Dieu et que les gens sont en eux-mêmes contre Dieu au plus profond d'eux-mêmes. N'écoutez pas cette vue négative du monde. C'est un monde qui est bon. Est-ce que vous croyez en cela? Ces choses qui disent que les gens sont bons dans leur cœur. Oh, il y a du bien dans chaque personne, mais ceci ne rend pas les gens bons. C'est vrai que par la bonté de Dieu, il a préservé cette capacité d'aimer dans les gens, sinon le monde ne pourrait pas exister et il serait intolérable. Il y a certaines choses qui sont préservées en nous, le bien est préservé. Mais vous devez être vraiment aveugle pour penser que ce monde est un monde qui est bon. C'est un monde qui est perdu dans l'iniquité, dans la tromperie, dans l'inégalité, dans la méchanceté. C'est un monde qui a chuté loin de Dieu. Mais le péché vous séduit en disant non, c'est un monde qui est bon. Et ce bonheur matériel est extraordinaire. C'est là ce que dit le péché. Et vous y croyez. Et vous êtes en péril. Cette vie, c'est tout ce qui est important, dit le péché. Et ceci peut être prouvé que l'existence du monde et notre existence peut être expliquée dans des termes matériels, par la science, etc. Ce qui est loin d'être vrai. Mais le péché est personnifié ici comme nous séduisant avec toutes ces choses. Et parce que nous voulons croire ces choses, nous les croyons. Et nous ne posons pas ces questions importantes. Est-ce que vous avez déjà entendu un entretien à la télévision ou à la radio où celui qui pose des questions tellement faciles, et alors celui qui répond peut répondre toutes sortes de non-sens parce que les questions ne sont pas suffisamment pertinentes. C'est ainsi, chers amis, les gens disent « Oh, la science peut tout prouver ». Je vais accepter cela parce que je veux accepter ces choses. Et vous ne posez pas de questions difficiles pour remettre ces choses en question. Non, la science ne peut pas tout prouver d'aucune manière parce qu'il y a pour ces processus d'évolution tant de choses que l'on ne peut pas expliquer dans l'évolution et dans l'explication actuelle de la science. C'est loin d'être expliqué. Mais nous voulons croire ce que nous voulons croire. Mais ce passage nous dit « Le péché nous ment, nous sommes endurcis par la séduction du péché qui nous ment. » Et le péché nous empêche de voir certaines choses. Et les gens ici marchent à Londres ce soir en ne sachant pas que s'ils avaient la foi en Christ, ils auraient ce pardon de Dieu pour tous leurs péchés. Ils ne savent pas cela. Ce trésor le plus grand imaginable, avoir cette vie nouvelle qui leur est donnée, cette nouvelle nature et cette nouvelle force en eux pour être réconciliés avec Dieu, pour le connaître, pour marcher avec lui, pour le prier, pour avoir son aide. Alors ils auraient la lumière, la compréhension de la parole de Dieu par rapport à tous ces problèmes de la vie. Ils auraient toutes les promesses de Dieu. Ils auraient cette grande joie et un but dans leur vie, le sens de la vie. Ils auraient une destination éternelle. Mais le péché les a trompés et séduits et a mis ces choses de côté. Et le péché fait ce lavage de cerveau pour qu'ils puissent penser que le monde va tout leur donner. Et alors ils se détournent de Dieu. C'est là le raisonnement de ce passage endurci, rendu obstiné, dur, contre Dieu par la séduction du péché, par les mensonges et la tromperie du péché qui est personnifié ici, endurci, sans Dieu dans le monde, alors tout notre caractère devient de pire en pire de jour en jour. Nos traits de caractère, nos mauvais traits de caractère sont plus profondément inscrits en nous et l'orgueil augmente et cet amour des choses matérielles ou peu importe quel péché, cette tragédie, cette tromperie du péché qui nous enlève cette foi en Dieu pour croire en Dieu. Et je vais lire quelques versets du chapitre 2, verset 14. « Puisque les enfants participent de la chair et du sang, il en a aussi de même participé Jésus-Christ, afin que par la mort ils détruisent celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable et le péché, et qu'il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. » Ce sont des paroles difficiles, mais écoutez, car assurément, il n'a pas secouru les anges, mais il a secouru la postérité d'Abraham, la nature humaine. C'est pourquoi il a fallu qu'il devienne semblable en toutes choses à ses frères, ceux qu'il voulait sauver, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu pour expier les péchés du peuple, car ayant été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Ceci parle de Christ, de la personne en qui nous devons croire et en son œuvre d'expiation à la croix du calvaire. Il a souffert, il est mort à la croix du calvaire pour prendre entièrement la condamnation éternelle, tout le poids de culpabilité et de condamnation que nous méritons parce que nous avons été contre Dieu toute notre vie, de manière à ce que nous puissions être entièrement pardonnés par un Dieu saint et que nous devenions des enfants de Dieu, que nous puissions avoir cette communion avec lui et marcher avec lui et l'aimer et le connaître. Ceci, c'est être libre. C'est une délivrance, une libération de notre âme, une guérison de notre âme, notre esprit renouvelé, notre affection, notre cœur est complètement renouvelé, notre volonté est renouvelée, notre conscience est ramenée à la vie et notre esprit, notre faculté de prier est revivifiée et renouvelée. Et vous invoquez Dieu et il entend votre prière et vous le savez et il répond à votre prière. Il vous bénit dans votre vie et au dernier jour, il va vous amener à la gloire éternelle. Ne soyez pas trompés par un cœur qui a chuté loin de Dieu. Je suis désolée de devoir le dire ainsi. Ne soyez pas séduits et trompés par le péché, par une maladie. Mais ceci est volontaire. Notre âme, notre cœur, mais implorez Christ et confiez-vous en lui. Donnez-lui votre vie et alors il va vous délivrer, vous libérer et vous guérir entièrement. Prions ensemble. Ô Dieu, notre Père céleste, fais-nous grâce à chacun, nous te prions, œuvre dans nos cœurs, touche nos cœurs. Ô Seigneur, cet avertissement est si solennel, aide-nous à répondre. Seigneur, nous te prions que tu puisses nous montrer et nous donner cette lumière, cette compréhension et nous amener à toi. Seigneur, fais-nous grâce à présent dans ton amour si grand qui veut nous sauver. Nous te le demandons dans le nom de notre Sauveur et pour sa gloire. Amen.